Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une affaire criminelle de 1996 à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Un couple, Angela et Alain E., commet l'imprudence de se rendre à un rendez-vous avec une grosse somme d'argent liquide. Ils ne savaient pas que l'homme qu'ils allaient voir avait déjà tué. Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec maître Alain Michel qui défendait dans ce dossier la famille de l'une des victimes. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le mardi 2 avril 1996, à 5h du matin, Alain et Angela E., qui habitent Le Havre, montent dans leur Mercedes et prennent la route de Mulhouse. « Allez, viens, monte !» Ils emmènent avec eux le petit caniche noir d'Angela, Princesse. Du Havre, Mulhouse, ça n'est pas la porte à côté. Ils en ont pour 700 bornes. Mais, que voulez-vous ? Les affaires sont les affaires. Alain et Angela se sont lancés depuis quelques mois dans l'import-export de voitures allemandes. Et donc ils vont régulièrement dans l'Est chercher des voitures. Et là, ils sont sur un bon coup. Chut ! Une Ferrari. Un type près de Mulhouse est OK pour la leur vendre. Si tout va bien, ils vont se faire une jolie marge. Dans les 200 000 francs. 30 000 euros d'aujourd'hui. Ça vaut bien la peine de se taper 700 kilomètres. Et puis ils sont sur un autre coup. Une friterie au Havre. Un de leurs copains, là-bas, près de Mulhouse, serait prêt à s'associer avec eux. Le business. Toujours le business. À Mulhouse, Alain et Angela ont un point de chute. Un appartement qu'ils ont en colocation avec un autre couple. Quand ils arrivent, ils y déposent leurs affaires. Et ils repartent tout de suite. Ils ont rendez-vous à 20 km de là, à Rosneau. Les heures s'écoulent. Le soir arrive, ils avaient dit qu'ils ne rentraient pas pour dîner. Les colocataires ne s'inquiètent pas. Mais en fin de soirée, ils ne sont toujours pas rentrés. Et le lendemain matin, non plus. Et personne de leur entourage n'a la moindre nouvelle. Alors les colocataires appellent cette pizzeria, ce restaurateur, Charles, avec lequel ils avaient rendez-vous.
Oui, ils sont bienvenus ici, oui. Ils sont repartis en début de l'après-midi. Ah non, j'ai pas de nouvelles depuis, non.
Et les heures passent encore. Alors le surlendemain, leurs amis appellent Céline, la fille d'Alain qui habite au Havre. T'as pas de nouvelles non plus ? Oh ben ça commence à être inquiétant quand même.
Ouais, je crois que t'as raison. Écoute, je vais essayer de mener ma petite enquête de mon côté, je te tiens au courant.
Et la première chose que fait Céline, la fille d'Alain, c'est d'aller voir par Minitel le compte en banque de son père. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a eu un gros retrait. Avant de partir du Havre, Alain et Angela ont retiré 500 000 francs en liquide. Eh ben oui, la Ferrari. T'achètes en cash, tu vends en cash. Pour le fisc, c'est pas vu, pas pris. Mais c'est quand même une sacrée somme, ça. 75 000 euros en petites coupures, en paille d'armoire, en avoine. J'appuie 2 secondes sur pause. Cas de figure le plus probable. Ils se sont fait la malle. Ils se sont pris 500 000 francs pour tous les deux et ils se sont tirés. Une nouvelle vie sous les cocotiers. Et on finira bien par savoir pourquoi ils sont partis. Et du coup, qu'est-ce que je fais là, moi ? Hein ? Et vous ? C'est pas trop mon truc, les départs sous les cocotiers. En tout cas, à ce moment-là de l'histoire, vous, vous seriez allé à la police ou à la gendarmerie. Moi aussi, direct. Mais les proches d'Alain et Angela, eux, vont d'abord voir un journaliste, le fait-diversier du journal L'Alsace.
Et dans quelles circonstances ils ont disparu, vos amis ? Eh bien, juste après un rendez-vous qu'ils avaient avec un restaurateur à Rosneau.
Ah bon ? Et il s'appelle comment, votre restaurateur ?
Crétello.
Pardon ?
Vous avez dit Crétello ? Charles Crétello ?
Oh, mais c'est très inquiétant, ça. Il le connaît, ce Charles Crétello. Il le connaît parce qu'en tant que journaliste, il a suivi son procès. Il y a 17 ans de ça, en 1979, devant la cour d'assises.
Ah ben, je me souviens bien. Hein. Il était accusé avec un complice d'avoir tué un garçon de café, pour lui piquer de l'argent. Mon souvenir, je crois que devant la cour d'assises, il a pris dans les 20 ans. Et je crois bien qu'il en a fait que 9. Très inquiétant, en effet. Pourvu qu'il n'ait pas replongé en zigouillant Alain et Angela. Et c'est donc le journaliste qui prévient la police judiciaire de Mulhouse. Il appelle directement le patron.
Ah mais moi je peux pas le coffrer comme ça, ton crétello. Y a pas de corps, hein. S'il y a pas de corps, ben y a pas de meurtre. Moi il me faut quelque chose pour le placer en garde à vue. Bon écoute, dis aux proches de venir nous voir et on va ouvrir une enquête et puis c'est tout.
Il est peut-être temps que je vous en dise un peu plus sur les deux disparus. Alain et Angela aient 46 ans tous les deux. Ils étaient divorcés chacun de leur côté, ils se sont croisés dans un club de danse, le Coup de Foudre. Mariage en 1992. À l'origine, Alain était docker au Havre. Et puis un jour, il s'est mis à son compte, une entreprise de réparation de containers, sur le port du Havre. Et puis ça a tourné vinaigre avec les autorités portuaires, ils l'ont viré. Il leur a fait un procès. Figurez-vous qu'il a gagné et récupéré la coquette somme de 1 800 000 francs, c'est-à-dire 270 000 euros. Avec, il s'est acheté une casse automobile à Carcassonne, puis une brasserie au Havre et enfin une entreprise de fenêtres. Mais rien de tout ça n'a marché. Rien. Et donc, fin 1995, il trouve un associé à Mulhouse et crée une société d'importation de voitures allemandes. C'était ça, les voyages à Mulhouse. Sauf que ça s'est mal passé avec l'associé, et ils se sont séparés à l'amiable. Et quand se sont-ils séparés? Eh bien le 27 mars dernier, figurez-vous. C'est-à-dire 6 jours avant leur disparition. Alors honnêtement, s'il n'y avait pas cette histoire de rendez-vous à la pizzeria avec ce Charles Crétello, eh bien c'est de ce côté-là qu'on irait chercher. L'associé, le business d'Alain et Angela est. Mais ils ont disparu juste après avoir vu ce type, ce Crétello, qui est un tueur. Et donc, la première chose que font les policiers, c'est d'aller le voir. La pizzeria est fermée, mais Charles Crétello les reçoit dans son appartement, juste au-dessus. Nous enquêtons, monsieur, sur la disparition de monsieur et madame E. Vous les avez vus, je crois.
Ouais. Ouais, ils ont même déjeuné ici, à la pizzeria.
Vous avez déjeuné avec eux?
Ouais, ouais.
Avec mon fils Christophe, on a parlé affaires. Votre femme était là?
Non, elle était partie faire des courses.
Et de quoi avez-vous parlé?
Bah, il voulait me proposer qu'on s'associe pour acheter une brasserie au Havre. Un établissement qui s'appelle, je crois, le Roi de la Frite. Ils étaient allés le filmer avec leur caméscope. Ils m'ont montré la cassette vidéo. Le but, c'était de reprendre l'affaire ensemble, quoi.
Et à la fin du repas, savez-vous où ils sont allés?
Oui. Et j'avais un rendez-vous en Allemagne, je crois.
Bon. Pardon de vous avoir dérangé, monsieur Crétello. Là-dessus, un mois et demi s'écoule depuis la disparition du couple. Coup de fil à la PJ de Mulhouse.
Ouais, Engel. Salut, c'est la Fluviale. Dis donc, faudrait que tu viennes sur place. Là, on a trouvé un véhicule dans le Grand Canal. C'est une Mercedes. Et a priori, les plaques collent avec le véhicule que vous recherchez.
La Merco est sortie du canal à l'aide d'une grue. Et c'est bien la voiture des haies. La grue la dépose sur le quai. Les policiers ouvrent le coffre. Ils sont là, tous les deux. L'un sur l'autre. Enfin, tous les trois. Il y a aussi le caniche. Et l'horloge de bord à aiguille indique 2h15 ou 14h15, c'est selon. Et autant vous dire que les 500 000 francs, la petite mallette avec les bifetons pour la Ferrari, envolée. Alors comment Alain et Angela ont-ils été tués? Par balle, figurez-vous. Du 22 long rifle. 3 balles dans le corps d'Alain, 1 dans le menton et 2 dans la tempe. 2 des 3 balles sont restées dans la boîte crânienne, la 3e a dû ressortir. Angela a elle aussi reçu 3 balles. Mais d'après les légistes, elle n'est pas morte de ça. Car on a retrouvé de l'eau du canal dans ses poumons. Donc quand on pousse la voiture dans le canal, elle est encore vivante. Elle est morte noyée. Et idem pour le caniche princesse. 3 balles aussi. Et bien entendu, c'est la même arme.
«
Maintenant qu'on a retrouvé les corps, est-ce qu'on a quoi que ce soit de plus contre Charlie Cretello ?
Eh ben ouais. L'endroit, figurez-vous. L'endroit où on retrouve les corps dans le canal. C'est tout près de la pizzeria. Tout près.
Et par ailleurs, c'est à deux pas de l'endroit où, il y a 17 ans, Cretello a tué ce garçon de café. Même commune. Et à l'époque, il avait déjà utilisé du 22 long rifle. Les taux se resserrent, Charlie.
Ce qu'on découvre après, notamment par l'examen des relevés téléphoniques des et au Havre, c'est qu'Alain et Angela étaient en contact très étroit avec Cretello avant leur mort. Et encore plus les derniers jours. Donc ils le connaissaient bien. Est-ce qu'ils le connaissaient au point de lui avoir dit qu'ils avaient 500 000 en liquide sur eux pour acheter la Ferrari ?
Évidemment, réentendu par les flics, Cretello fait l'andouille.
« Vous pensez que je les ai tués, c'est ça ? Avec mon passé, je suis le suspect idéal. Hein. Mais je vous jure qu'on s'est juste vu pour un déjeuner d'affaires. La suite, je sais pas. Ils sont repartis, j'ai pas de nouvelles. »
C'est touchant, les repentis. C'est toujours très émouvant. En attendant, les flics les ont tous mis sur écoute. Le père, le fils, la mère et la belle-fille. Et c'est très édifiant. Ce Charlie Cretello est un sacré tordu. D'abord, il a une maîtresse. Et ça n'a pas l'air d'être d'aujourd'hui. Ce qui ne l'empêche pas de draguer ses serveuses et de leur promettre du galon dans les bars que, par ailleurs, il ne possède pas. Bref. Et puis, à l'écouter comme ça, jour après jour, on s'aperçoit que c'est un type terrible. Un type qui fait peur à tout le monde, en fait. Et surtout à son fils, Christophe. Il le menace. Il dirige chaque millimètre de sa vie. Et le gamin a la trouille, hein. Ça s'entend. Il est à sa botte. Ce Charlie Cretello est un manipulateur. Ça paraît clair. Et puis les mois passent comme ça. 6 mois, 8 mois, 10 mois. Et les flics continuent d'écouter sans relâche. Et bientôt, la pizzeria ferme. Christophe Cretello, le fiston, déménage et part travailler à Marseille avec sa compagne. Et Christine Cretello, la femme de Charlie, part elle aussi s'installer dans le sud. Ça bouge. Pendant ce temps-là, l'autre a le champ libre pour honorer sa maîtresse. Mais dans l'enquête, rien n'avance. Deux ans après le double meurtre, les policiers de Mulhouse décident d'interpeller tout le clan Cretello. Le père, le fils, madame et la belle-fille. Et chacun dans leur coin, le fils, sa mère et sa femme à Marseille, et Charlie à Mulhouse, sont réinterrogés sur la journée du 2 avril 1996. Au début, ils resservent tous la même limonade que deux ans plus tôt. Le père et le fils déjeunent à la pizzeria avec le couple et la mère et la fille sont allés faire des courses. Les terminent leur repas et ils s'en vont. À Marseille, le flic interroge la femme de Charles, Christine, lui met la pression en lui révélant les frasques de son mari, la maîtresse et un fils caché. Figurez-vous, elle ne bronche pas. « Madame, vous dites que vous étiez absente ce jour-là et que vous n'êtes rentrée à Rosno qu'à 20h. Le problème, madame, c'est que vous avez été vue à 17h sur le parking par plusieurs personnes et on a là des procès-verbaux qui en attestent. » Elle est coincée. Elle réclame une clope.
« Bon, d'accord, j'ai menti. » On est revenu à la pizzeria plus tôt. Quand je suis arrivé, j'ai pas pu rentrer. Mon fils m'a interdit de monter. Il avait l'air paniqué, ça se voyait sur son visage.
Et votre mari, vous l'avez vu à ce moment-là ?
Oui.
Lui aussi, il m'a dit qu'il fallait pas que je rentre.
Il m'a dit de revenir plus tard, alors je suis parti chez ma belle-fille.
Est-ce que la voiture du couple était là à ce moment-là ?
Oui. Elle était garée sur le parking, là. Le long de la terrasse, à gauche.
Ça vient. Lentement, mais ça vient. Les flics s'attaquent maintenant au fils.
Votre mère, monsieur Cretello, dit qu'elle est rentrée plus tôt qu'elle ne l'avait dit cet après-midi-là.
Et elle dit aussi que vous l'avez empêché de rentrer dans la pizzeria, vous et votre père. Pour quelle raison, monsieur ?
L'effet est radical. Christophe Cretello se déballonne d'un coup.
En fait, moi, je suis allé promener les chiens dans l'après-midi. Et puis quand je suis rentré, je suis tombé sur les cadavres de monsieur et madame A. Mon père les avait tués.
Et puis d'un coup, il devient tout pâle, il fond en larmes, et il sert une autre version.
Moi qui les ai tués, en fait. À la fin du repas, mon père m'a tendu une arme, il m'a dit « Liquide Angela ». Alors je l'ai traîné dans la cave du restaurant, et j'ai tiré 2 ou 3 balles, je sais plus, dans le cou et dans le haut du dos.
Il dit qu'après il a rendu l'arme à son père et que c'est son père qui a tué Alain qui dormait sur le canapé. Qu'ensuite ils ont traîné les corps dans la cave, nettoyé les traces de sang, que le père a mis les 2 cadavres dans la voiture du couple A et qu'ils sont partis tous les 2, père et fils, la pousser dans le Grand Canal. On voulait des aveux, on les a. Mais à l'autre bout de la France, à Mulhouse, voyons maintenant ce que dit le père. Le commissaire qui l'interroge lui colle sous le nez les déclarations de son fils. Effet immédiat. Le patriarche se réveille.
« Oh mais mon fils, il est pour rien. Il a dit ça pour me couvrir. Il est pour rien. C'est moi qui les ai tués tous les 2.
On voulait des aveux, on en a. » À partir de maintenant, c'est tout l'enjeu de cette enquête, les départager. Même si, honnêtement, les policiers ont plutôt tendance à croire le fils, car les détails qu'ils donnent collent avec les constatations. Et ils se disent que le père, conformément à son caractère, assume tout parce qu'il est le patriarche. Donc il faut savoir précisément qui a tiré. Et situer le rôle de Christine, la femme de Charles. Le 12 mars 2000, 4 ans après le double meurtre, le juge d'instruction organise une reconstitution à la pizzeria. Il commence par demander à Christophe Cretello de refaire les gestes de son scénario. Il les refait sans hésitation. Il fait le geste qui tue Angela, puis il remonte à l'appartement, il tend l'arme à son père, qui, dit-il, tue à son tour Alain. Il rejoue tout ça sans hésitation et pour tout dire, il est très convaincant. Ensuite, on passe à la version du père qui prétend les avoir tués tous les 2.
Bien à vous, monsieur Cretello. Refaites les gestes que vous avez faits ce soir-là.
Quand il rejoue le meurtre d'Alain, ça colle avec les constatations. Mais ensuite, quand il rejoue le meurtre d'Angela, là, honnêtement, ça flotte. Ça ne colle pas avec les constatations. Et puis d'abord, il hésite. Il est incapable de dire précisément comment il a fait. Bref, il n'est pas convaincant pour le meurtre d'Angela. Pour celui d'Alain, oui, mais pas celui d'Angela.
Bien, monsieur Cretello, quand vous déplacez le corps jusqu'à la voiture, votre fils est là ?
Ah non, non. Non, je suis seul. J'ai fait ça tout seul.
On ne le croit pas. Enfin, Alain était dodu, on lui colle un mannequin du même poids, il n'arrive pas à le traîner. Mais il maintient coûte que coûte sa version. Il s'accuse de tout. Compliquer la donne, alors que l'instruction est presque bouclée et que le procès devant la cour d'assises se profile, le père Charles Cretello revient sur ses aveux.
Bah moi, en fait, j'ai rien fait. Je me suis accusé, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai déjeuné avec Alain et Angela, ça c'est vrai. Ils m'ont montré une cassette vidéo de la brasserie qu'ils voulaient qu'on achète ensemble. Mais moi, après, vers 14h30, je suis allé promener mes chiens.
Et vous êtes rentré à quelle heure ?
Vers 4h15. Et puis là, mon fils m'a dit j'ai fait une connerie. Puis j'ai vu les 2 cadavres. Je lui ai dit débrouille-toi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et puis finalement, le soir venu, je vais quand même donner un coup de main pour faire disparaître les corps.
Et c'est ce que vous avez fait, monsieur Cretello ? C'est-à-dire que vous avez aidé votre fils à pousser la voiture dans le canal ?
Non, finalement, il l'a fait tout seul. En chemin, on s'est engueulé. Je l'ai laissé finir tout seul.
Et les 500 000 francs, monsieur Cretello? C'est quand même vous qui les avez récupérés. Enfin, dans votre précédente version, vous disiez que vous aviez en partie payé vos employés avec cet argent.
Bon, en fait, j'ai planqué le pognon. Mais c'est Christophe qui a tout dépensé.
Changement de pied absolu. Le père qui avant assumait tout, et que les policiers d'ailleurs ne croyaient qu'à moitié, maintenant n'assume rien. Jusqu'ici, il semblait protéger son fils. Maintenant, il l'accuse. Qu'est-ce qui s'est passé qui peut expliquer ce retournement? Eh bien, deux choses. D'abord, on pense qu'une visiteuse de prison lui a retourné le cerveau. Elle lui a fait prendre conscience que, comme il était récidiviste, il allait prendre le max. Et comme a priori entre les deux s'est nouée une amourette, elle a dû lui dire « Si tu veux sortir, si tu veux qu'on vive le grand amour, dis la vérité. » Ensuite, cette visiteuse l'a fait changer d'avocat. Et son avocat lui a sans doute expliqué qu'en assumant les deux meurtres, il allait prendre le max. En attendant, tout ça pour l'instruction, c'est une tuile. Le juge était sur le point de boucler son dossier. Et donc, il faut qu'il se remette au travail. En pure perte, hein. Parce que ça fait longtemps qu'il s'est fait sa religion. Les revirements de Charles Cretello n'y changent rien. Le père est un manipulateur. Il a manipulé son fils pour qu'il tue Angela. Il a lui-même tué Alain. Et ils sont allés tous les deux se débarrasser des corps. Bien sûr, le juge n'a aucune preuve absolue de ce scénario. Mais si tout se passe bien, compte tenu du caractère dominateur du père et du côté falot du fils, les jurés de la cour d'assises devraient arriver aux mêmes conclusions. Le procès de Charles et Christophe Cretello s'ouvre en juin 2003 devant la cour d'assises de Colmar. Et les voilà donc tous les deux, père et fils, côte à côte dans le box. Ils ne se regardent pas. On dirait qu'il y a un mur entre eux. Charles, le père, brun, fier, affronte les regards de l'assemblée. Alors qu'à l'inverse, Christophe, rouquin, empâté, semble abattu par les médicaments. Il baisse la tête. La stratégie du nouvel avocat de Charles Cretello, maître Cormand, est extrêmement simple. Son client est victime de sa réputation, de son passé de tueur. Mais sur ce coup, il n'a rien fait. Et dans ce cadre, il joue un assez bon coup. Il fait témoigner la directrice de la prison où Charles est incarcéré.
Oui, je peux témoigner qu'en prison, monsieur Charles Cretello se comporte très bien.
Et vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé, madame?
Oui, bien sûr. Un jour, un surveillant était en danger du fait d'un autre détenu. Eh bien, monsieur Cretello est intervenu pour aider le surveillant. Ah oui.
Et un point de marqué pour Charlie. Sauf que c'est le premier et le dernier point. L'avocat de la partie civile, maître Alain Michel, fait venir à la barre une nièce de Charlie, et donc une cousine de Christophe, Laurence.
Charles était tyrannique. C'était un père abusif. Il terrorisait tout le monde.
Autre argument évoqué par la défense de Charles, Christophe est fou. Il a tué le couple E dans un accès de folie. Et c'est vrai que quand on le voit dans le box, assommé par les neuroleptiques, on peut avoir un doute. Mais les experts psychiatres viennent dire le contraire.
Nous n'avons décelé chez M. Cretello Christophe aucune pathologie psychiatrique.
Arrive la plaidoirie de l'avocat général qui en vient aux mêmes conclusions que le juge d'instruction.
Il paraît clair que Charles Cretello est l'instigateur du meurtre et que son fils Christophe n'a été dans cette affaire qu'un exécutant, obéissant. En conséquence, je vous demande de condamner le père à la réclusion criminelle à perpétuité et son fils à 18 années de réclusion criminelle. Je vous remercie.
Et au final, les jurés sont sur la même ligne. Après 4 heures de délibéré, ils condamnent Charles Cretello à la perpétuité avec 22 ans de sûreté, le max, et Christophe Cretello à 20 années de réclusion criminelle.
Charles Cretello fait appel. Et l'avocat général, considérant qu'on ne peut pas rejuger l'un sans l'autre, fait appel à son tour des deux condamnations. Nouveau procès donc en avril 2004 devant la cour d'assises de Reims. Christophe Cretello y apparaît complètement métamorphosé, moins shooté. Il regarde les gens en face, il s'exprime mieux. Ce procès est marqué par une scène à la toute fin. À un moment, Christophe sort de ses gonds.
« Tu peux pas dire ça! C'est bien toi qui me l'as mis, cette arme dans la main !»
Le verdict tombe tard dans la nuit, et c'est bis repetita pour Charles Cretello, qui prend perpétuité avec 21 années de sûreté. Quant à Christophe, les jurés l'acquittent pour le meurtre, mais ils l'impliquent dans l'évacuation des deux cadavres, et pour ça, il prend à nouveau 20 ans. Voilà pour cette vieille histoire. Je dis vieille, maître Alain Michel, vous étiez avocat partie civile, vous défendiez les enfants et dans cette affaire, parce que je vous demande de réveiller de vieux souvenirs. Est-ce que c'est le genre d'histoire dont on se souvient néanmoins?
Ah oui, tout à fait. C'est pas le genre d'histoire qu'on oublie comme ça, parce que c'est quand même assez exceptionnel.
Qu'est-ce qui marque dans cette histoire? Le personnage de Charles Cretello?
Tout à fait. Le Charles était vraiment très 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 impressionnant, au premier comme au deuxième procès d'ailleurs.
C'est-à-dire?
Il avait un regard, il avait une façon de s'exprimer, on sentait vraiment le poids qui pesait sur le fils. Il a quasiment toujours eu la maîtrise sur son fils durant les deux procès.
C'est lui qui disait ce qu'il allait dire ou pas, quoi?
Quasiment, ou vous n'avez même pas besoin de le dire. En fait, on sentait que le fils était terrorisé par son père.
Je me rends pas compte, il est comment? Il est sympathique ou profondément antipathique?
Il est plutôt antipathique.
Sûr de lui?
Très 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 sûr de lui, oui.
Alors, ce que dit le verdict, c'est que les jurés ont fait le même chemin que le juge d'instruction, c'est-à-dire que le grand instigateur de ce double crime, c'est le père, et que le fils n'a été qu'un pantin manipulé par le père. Est-ce que c'est aussi la conclusion à laquelle vous êtes arrivé à l'époque, maître?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec cette analyse, parce que c'est exactement ce qu'on a tous ressenti. D'ailleurs, les deux cours d'assises qui se sont prononcées ont eu le même sentiment.
Ça tient à quoi?
La personnalité de chacun. Moi, j'imaginais pas Christophe capable de commettre de tels actes. Vous savez, faut quelque part un certain courage pour tuer quelqu'un, même si c'est un peu horrible de dire ça. Et on voyait pas du tout Christophe dans cet habit-là. Il était beaucoup trop grand pour lui.
Et donc, il y a eu ce sursaut de Christophe Cretello au deuxième procès. C'est-à-dire que, pour le coup, pour la première fois de sa vie, il fait face à son père et à ses responsabilités.
Oui. Je me souviens très bien de cette scène-là, c'est vrai que c'était à la fin, et on sent que le temps a plutôt joué pour lui, et puis au premier procès, effectivement, il était complètement assommé, donc il réagissait pas du tout, et là, on se dit, ça y est, il va enfin se révolter, il va enfin y avoir un juste retour des choses, et malheureusement, ça n'a pas duré.
L'hypothèse de la folie de Christophe Cretello, qui est soulevée par la défense de Charles... Est-ce que vous la jugez recevable ou pas du tout? Parce que c'est vrai que, et ça c'est l'image qui donne au premier procès, le côté abattu, le côté je prends des neuroleptiques, donc je suis pas bien dans mes baskets, est-ce que ce garçon n'est pas un dérangé mental?
Moi j'y croyais pas beaucoup, et surtout il y a les experts psychologues qui se sont, les psychiatres qui se sont exprimés là-dessus, qui étaient très clairs, donc il n'y avait pas franchement de discussion. Quand quelqu'un a des comportements comme ça... qui peuvent varier, en général, la psychologie ou la psychiatrie peut vous l'expliquer ou peut attirer votre attention là-dessus. Ça n'a jamais été le cas dans ce procès.
Et le père, vous vous souvenez de ce qu'en ont dit les psychiatres? Parce que les pervers narcissiques qui sont des manipulateurs, les psychiatres savent les repérer. C'était le cas?
Oui. Dans mes vagues souvenirs, je crois qu'effectivement, c'est ce qui avait été dit sur le père, oui.
Alors, dans cette affaire, Maître Michel, on peut supposer qu'Alain et Angela aient, on dit forcément à un moment donné, à Charles Cretello, qu'ils avaient une forte somme en liquide. On ne peut que le supposer.
Oh, c'est totalement certain, puisque malheureusement, un des défauts d'Alain, c'était justement de trop raconter qu'il avait gagné son procès au Havre contre les opérateurs portuaires et que il avait ainsi fortune faite et forcément il l'a raconté à la famille Cretello.
C'est un bavard, c'est un flambeur oui. Un peu, hein, Alain.
On va dire une grande gueule.
Une grande gueule. Donc forcément il l'a dit à Cretello qu'il connaissait bien.
Oui. Oui, et surtout, Alain Rey, c'était quelqu'un, lorsqu'il appréciait son interlocuteur, qui se liait très vite d'amitié et qui se livrait totalement.
Une question qui a pu perturber les gens qui nous écoutent. Le vendeur de la Ferrari, il a existé. On n'en entend plus parler. On l'a jamais trouvé ?
Non. Alors moi, le vendeur de la Ferrari, je n'y ai jamais cru. Alain Rey m'en avait parlé lors de son dernier séjour au Havre. Il m'avait expliqué ce qu'il comptait faire. Donc j'avais déjà dit que ça sentait l'arnaque à plein nez, puisque comme vous l'avez très justement raconté, il n'était pas très doué pour la suite des affaires qu'il a entreprises.
Ouais.
Et j'avais dit que c'était sûrement une escroquerie et qu'il allait sûrement se faire pigeonner. On ne va pas acheter une voiture de ce montant-là avec de l'argent liquide. Si je me souviens bien, il l'a acheté en Suisse, il l'a revendu en Allemagne ou quelque chose comme ça. Bref, en plus, on changeait de pays. Donc j'avais totalement déconseillé de le faire. Et pour moi, la Ferrari n'a jamais existé. C'était quelqu'un qui avait trouvé le pigeon facile. Alors, qui sait, je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, moi, j'y ai jamais cru.
Vous étiez donc, si je comprends bien, déjà son avocat bien avant les faits à Alain Rey, hein?
Oui, parce qu'en fait, c'est moi qui l'avais défendu dans le cadre de son procès contre les opérateurs portuaires lorsque son entreprise de réparation de conteneurs avait été expulsée.
Ça lui avait un peu tourné la tête, tout cet argent?
Un petit peu, oui.
Ouais.
Un peu.
Ouais. Et fait perdre la raison. Est-ce qu'on peut, parce qu'on y pense forcément, est-ce qu'on peut envisager le vendeur de cette Ferrari qui n'existerait pas s'appelle Charles Cretello, qu'il ait inventé cette histoire par une complicité pour que l'autre vienne avec du liquide?
Oui, on peut, je pense que l'idée n'est pas, est loin d'être bête, effectivement, on peut tout à fait se poser la question.
Mais on n'a rien prouvé en la matière.
Non,
ouais.
On n'a rien prouvé en la matière, l'enquête de police a été très bien faite, vous l'avez souligné, elle a duré longtemps, elle était très très compliqué. L'instruction aussi a été faite d'une manière tout à fait complète, mais malheureusement il n'est pas toujours facile d'établir ce genre de choses et on n'a pas pu juridiquement l'établir.
Et d'ailleurs c'est une information pour à l'époque d'ailleurs je pense une instruction pour assassinat ou pour meurtre. L'idée de la préméditation est évoquée ou pas? Parce que s'il y a la petite annonce pour la Ferrari et qu'elle est faite par Charles Cretello, alors c'est un assassinat.
Ça n'a pas été établi comme vous le disiez, mais effectivement, moi je reste quand même convaincu qu'il y a eu de la préméditation. Le contexte, le personnage d'Alain Rey, celui de Charles Cretello, toute cette histoire-là n'est pas un hasard. Enfin, j'imagine pas une seconde que ça puisse être un hasard.
Il est comment d'ailleurs ce Charles Cretello? Quand on le rencontre, spontanément comme ça, il respire l'honnêteté ou il a l'air d'un mafieux?
Oui, il faisait plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un personnage assez sombre. Non, j'aurais jamais fait confiance à quelqu'un comme ça, j'aurais jamais fait d'affaire avec quelqu'un comme ça. Et franchement, mais je suis pas du tout surpris que ce genre de personnage ait plu à Alain Rey, puisque ses précédentes affaires, notamment sa casse à Carcassonne, où il avait déjà perdu de l'argent, il s'était fait avoir aussi par des gens un peu douteux, si vous voulez, des gens qui ont profité du fait qu'il avait de l'argent, qu'il avait du cash, et qui faisaient confiance assez facilement, j'allais dire trop facilement.
C'était un naïf, Alain Rey.
Un peu naïf, oui. Il avait un côté naïf.
Il se laissait emballer par les grandes gueules, quoi, comme lui.
Voilà, exactement. Voilà, il aimait les grandes gueules comme lui. Il aimait des personnages qui lui ressemblaient un peu et il se faisait trop facilement embarquer dans des histoires qui tenaient pas debout. Heureusement qu'Angela était là d'ailleurs pour le freiner parce que plusieurs fois ça aurait pu tourner mal. Uniquement dans ses affaires. Là, ça a pris une autre dimension avec ce meurtre. Mais à l'époque, oui, Angela le tenait.
Dans votre souvenir, les 500 000 francs, les héritiers les ont récupérés?
Dans mon souvenir, je crois qu'on n'a jamais retrouvé l'argent.
Ouais. Eux, ils savent où il est, peut-être.
Sûrement.
Ils sont sortis depuis, sans doute.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Je n'en ai pas eu la confirmation officielle, parce que, comme vous le disiez, j'ai arrêté ma profession, mais logiquement, ils devraient être sortis, oui.
Merci beaucoup,
Alain Michel, avocat honoraire, comme on dit, du barreau du Havre. Merci d'avoir accepté d'évoquer tant d'années après, 23 ans après, cette affaire Crételo.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.